Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour. Raymond DeVos prétend parler pour ne rien dire. Nous allons tenter d'en dire beaucoup. Mon invité d'aujourd'hui va nous parler de la caisse alimentaire commune. Nous allons voir ce que c'est. Une innovation à caractère social qui tombe à pic au moment où la baisse du pouvoir d'achat frappe beaucoup de familles. C'est une première en France pour sortir des sentiers battus dans la manière d'acheter ses produits alimentaires et de les payer. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Charles Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agronome de formation. Après avoir été pendant un an bénévole au sein de cette initiative, vous êtes aujourd'hui salarié à mi-temps du collectif qui porte cette démarche, le comité local de Montpellier, de territoires à vivre, vivre au pluriel, on comprend ce que ça signifie. Vous êtes notamment chargé du pilotage de MONA, la monnaie locale de la caisse alimentaire, nous en avons également parlé. Mais avant que vous présentiez cette initiative, actuellement en cours d'expérimentation, mais lancée là, depuis le mois de février, racontez-nous votre Montpellier. Qu'est-ce qui vous a frappé lorsque vous avez découvert Montpellier, il y a quelques années là ? Vous en rêviez d'où, d'ailleurs ?
Moi, je me suis installé à Montpellier il y a 3 ans et demi, mais je connaissais déjà la ville. J'étais déjà venu pour visiter des amis, faire la fête là, en étant, là-bas en étant étudiant, parce que c'est une forte ville étudiante. Et moi, l'image que j'en garde, c'est il y a un peu moins de 10 ans, quand je viens visiter un ami en thèse. J'arrive en octobre, place de l'Homme. Oui. Il habitait place de l'Homme et un coin, il y a un petit bar qui s'appelle l'Osteria. Et j'arrive en octobre avec mon sac à dos et là, il y a un accordéon, de la guitare, sous le soleil.
Toute une ambiance.
Toute une ambiance assez, assez sudiste.
D'accord. Et alors, bon, depuis, donc, vous êtes installé ici, quels sont les lieux, y compris ceux qui ne sont pas sur les cartes postales ou dont on parle, l'office de tourisme, que vous aimez particulièrement, que vous recommandez ?
Eh bien, il y a cette place à laquelle je suis attaché. Je redécouvre dernièrement la place Sainte-Anne. J'aime bien m'y poser pour boire un café et écrire là-bas. Et sinon, je n'habite pas très loin du Jardin des Plantes. Et donc, c'est la visite, c'est la visite un peu obligatoire quand des nouveaux arrivent.
Oui. Encore que ce n'est pas si connu que ça, si fréquenté que ça.
Ah oui.
Le Jardin des Plantes, je veux dire, bon, ça va, on peut y séjourner sans être trop envahi.
Oui.
Et alors, quand vous recevez des amis, ou des membres de notre famille qui sont de passage à Montpellier, qu'est-ce que vous leur dites de la ville au-delà de ça ? Comment caractérisez-vous la ville, en définitive, notamment par rapport aux autres grandes villes françaises que vous pouvez connaître ? Quel est le style montpelliérain, en définitive ?
Quel est le style montpelliérain ? Je ne saurais pas trop dire, j'essaye de...
Est-ce que c'est quelque chose, comme souvent, du côté du soleil, de l'hédonisme, du plaisir de vivre ? Est-ce que c'est le brassage de la population, notamment avec, comme vous l'avez évoqué, un grand nombre d'étudiants, qui donne son atmosphère, son style particulier.
Il y a le côté un peu plaisir de prendre son temps, de pouvoir... Il y a un rythme un peu différent à Montpellier que dans d'autres villes. On sort plus tard, autant le matin que le soir. C'est un peu ce qu'elle est sur... Moi, maintenant, j'y suis habitué, mais peut-être pour d'autres, se caler sur un autre rythme. Et du coup, le plaisir de prendre son temps. On trouve toujours du monde en terrasse, parce qu'on a la chance qu'il fasse souvent beau.
C'est ça.
Je dirais le plaisir de prendre un peu de temps.
Alors, vous êtes là depuis quelques années, vous l'avez dit. Vous avez donc observé, mais le phénomène a commencé avant, la croissance de la ville, la croissance démographique, population, la croissance urbaine. Quel regard portez-vous sur ce phénomène qui suscite d'ailleurs des réactions, des points de vue contrastés ?
Moi, quand je venais à Montpellier avant, c'était en tant qu'étudiant et avec la population étudiante, donc c'était plutôt festif. Maintenant, j'y viens pour... ça fait 3 ans que je suis installé. un peu plus de 3 ans, j'y viens de façon plus pérenne. Et là, j'ai un regard et un cercle de gens qui s'installent de façon plus durable sur Montpellier, donc avec soit en s'installant en ville ou aux alentours de la ville. Donc j'ai toujours vu cet endroit assez mouvementé, assez...
Donc une ville qui a un mouvement, en mutation, avec bien sûr à la fois des mouvements de population, nous l'avons évoqué, mais également les différentes offres culturelles ou autres que la ville propose.
Oui, c'est sûr qu'il y a toujours des choses à faire à Montpellier, là, d'autant plus avec les beaux jours qui arrivent. Il faut choisir ce qu'on fait les week-ends. Voilà. Il y a toujours plein d'offres différentes et donc on n'a pas le temps de s'ennuyer.
Alors venons-en quand même au sujet qui vous amène aujourd'hui au micro de Divergence FM. Alors qu'est-ce alimentaire commune? Quel est le but en quelques mots? Quelle est l'ambition principale que cette initiative porte?
Alors la caisse alimentaire commune, elle est née il y a 2 ans avec le projet Territoire à vivre, suite au plan de relance. C'est un projet de coopération d'acteurs du territoire. Territoire à vivre Montpellier, c'est poser la question sur les sujets traitant de la précarité alimentaire. Et on a voulu travailler sur un accès à une alimentation choisie et durable pour toutes et tous. Et elle est née d'un constat qui est que la précarité alimentaire en France, elle est difficilement mesurable, mais on peut avoir un aperçu avec les chiffres de l'aide alimentaire qui ont augmenté.
Sensiblement. Bon, il y avait l'idée que c'était l'effet Covid, mais visiblement, c'est un phénomène plus profond qui perdure.
Il y a l'effet Covid qui fait passer, ça dépend des chiffres, mais de 6 à 8 millions de personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Là, avec l'inflation grandissante, de nombreuses personnes auront encore du mal à avoir accès à une alimentation correcte et choisie. Donc on part de c'est parti de ce projet là et aussi de tous les enjeux environnementaux qui sont de notre époque et aussi du constat que le système alimentaire, c'est de la production à la distribution, passant par la transformation, le traitement des déchets, tout ça, et aussi malade et à des défaillances. L'idée de cette caisse, c'est de pouvoir, avec un groupe de citoyens qui choisit son alimentation, comment l'acheter, où l'acheter, orienter des pratiques d'achat vers un système alimentaire plus durable pour répondre à ces différents enjeux.
Donc on l'a vu, il y a de grandes ambitions, simplement sociale, comment permettre à des personnes d'accéder à une alimentation de qualité, à un prix abordable. Donc, et puis, cela s'inscrit dans la recherche d'une alimentation et donc d'une agriculture qui permette, là aussi, de protéger la planète tout en nourrissant correctement les habitants. Donc, on voit bien que les dimensions multiples de ce projet, l'ambition qu'il porte. Alors, du coup, pour les habitants, on verra dans quelles conditions qui ont rejoint cette initiative. Comment ça se traduit concrètement pour eux? Donc, ils adhèrent, ils rentrent dans un dispositif.
Donc, pour adhérer à la... Faut déjà que je reparte sur l'histoire, comment a été constituée la caisse.
Oui, parce qu'il y a un gros travail de réflexion qui a duré un an ou deux, quoi, c'est ça?
Oui,
de maturation du projet.
Un travail de réflexion, puis après une mobilisation de citoyens et citoyennes intéressés par le projet pour constituer ce qu'on appelle un comité citoyen. Et ce comité citoyen, il se regroupe toutes les 3 semaines depuis octobre. Et c'est un peu le nœud de ce projet, puisque c'est lui qui prend les décisions et pense au fonctionnement de la caisse. L'idée, c'était aussi de réinjecter de la démocratie sur des sujets d'alimentation. Donc on a 47 personnes qui se regroupent tous les mois pour parler et alimentation, partager des connaissances dessus et discuter du fonctionnement de la caisse. Et ce sont ces premières personnes qui, en discutant des règles, en créant des règles, dont on va parler après, ont été les premières à tester le dispositif, donc à pouvoir acheter via une monnaie, via la mona dont on parlera, de l'alimentation dans les premiers points de vente dits conventionnés.
Donc on voit bien que c'est pas un système qui débarque en quelque sorte, qui est parachuté de je ne sais où, même avec de bonnes intentions, que la réflexion préalable, la mise en œuvre du projet, la phase expérimentale dans laquelle cette opération se situe, s'appuie, je dirais, sur cet enracinement d'un certain nombre d'habitants associés régulièrement aux décisions à prendre dans la gestion de la caisse.
Oui, tout à fait. Plus qu'associés aux décisions, c'est vraiment eux qui prennent la décision. Sur l'organisation, sur le projet, les personnes qui chapotent le projet, on est plus présent pour faciliter, animer ces temps collectifs sans être décisionnaire. C'est vraiment la décision appartient à ce comité citoyen. Vous avez parlé aussi d'expérimentation, donc on avance en essayant.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de modèle préétabli que vous aurez trouvé quelque part, même s'il y a des choses qui ont pu vous inspirer. C'est pour ça que cette expérience est présentée comme une première nationale, parce que voilà, vous avancez en marchant, quelques principes, et une clarification progressive des conditions dans lesquelles fonctionne de manière aussi optimale que possible. C'est à peu près ça, je dirais, cette work in progress, comme on dit pour faire chic, plutôt que d'plaquer encore une fois quelque chose de préétabli, une réflexion en chambre qui n'aurait pas de sens.
Oui, c'est ça. On ne détient pas la vérité sur comment fonctionne une caisse alimentaire en France. On a notre proposition de caisse alimentaire. Et d'autres expérimentations d'ailleurs se lancent et vont dans des directions différentes, et du coup c'est super riche de pouvoir voir comment ça réagira et
de comparer plus tard les avantages ou les inconvénients ou les difficultés des différentes formules de mise en mouvement sur cette question.
Tout à fait.
Alors j'habite Montpellier, je suis intéressé, comment ça se passe? Quel est le chemin pour rejoindre donc les coopérateurs, en tout cas les personnes qui sont engagées dans cette démarche?
Alors la démarche, on a fait un premier. L'idée, c'est d'étendre ce dispositif, pas le garder pour les 47 personnes du comité citoyen, mais bien qu'il y ait 200, 400 personnes qui puissent contribuer à ce projet de caisse alimentaire commune. Il y a déjà eu un premier appel à participation qui s'est fait le mois dernier, où 200 personnes vont pouvoir intégrer le dispositif. On est en ce moment même en train de les accueillir. Donc le comité citoyen organise des réunions d'accueil où pendant 2 heures, il présente les enjeux du projet et son fonctionnement en termes pratico-pratiques. Le souhait était de pouvoir avoir un... Qui dit expérimentation dit qu'on a un certain regard à apporter dessus, des retours, et un regard scientifique aussi à porter dessus. Et on voulait avoir un échantillon représentatif de la ville de Montpellier. Donc ces nouvelles personnes répondent à 2-3 questions qui sont... leur tranche d'âge, aussi leur tranche de revenus. Et au milieu de ces données, on va pouvoir faire un tirage au sort pour sélectionner, entre guillemets, ces personnes pour la première vague. Ça va être de la même façon. Il y a un deuxième appel à participation qui est en cours jusqu'au 21 mai.
Donc quelques jours après la diffusion de l'émission, qui permettra aux personnes intéressées... Alors pourquoi tirage au sort? C'est pour avoir un nombre, je veux dire, optimum dans cette phase, pour que l'accompagnement et l'intégration de ces personnes se fassent dans de bonnes conditions. Parce que ça fait, comment dire, ça semble donner à penser un côté limitatif, voire sélectif, pour permettre aux personnes intéressées de vous rejoindre.
Oui, alors pourquoi le tirage au sort ? C'est parce qu'en fait, on a la caisse, c'est ni plus ni moins qu'un budget, du coup abondé par des fonds publics, fonds privés et des cotisations des particuliers.
240 000 euros pour cette année, si mes souvenirs sont bons.
Environ 200 000 euros. Donc il y a des fondations privées, des fonds publics, métropole, ville. Qui dit budget dit du coup un budget qui est limité pour une expérimentation sur une durée d'un an. Donc on peut pas, on va avoir plus de demandes que de places disponibles. D'où ces questions que l'on pose pour quand même rentrer dans une représentativité de Montpellier, mais aussi un tirage au sort. Puisqu'il n'y a malheureusement pas de place pour tout le monde.
Oui, c'est-à-dire, pour ne pas être, je veux dire, débordé par une influence que vous ne pourriez pas bien accompagner, c'est un peu ça, quoi. Voilà, un peu le rançon du succès qui vous dépasserait en quelque sorte, et pour éviter ce risque.
Il y a ça, et puis aussi le budget, puisque la caisse vise à pouvoir donner accès à chacun et chacune l'équivalent de 100 euros par mois à dépenser dans des points de vente qui promeuvent une alimentation durable. Et donc il y a l'idée de pouvoir de pas arrêter le projet parce que les caisses sont vides avant la fin de l'année.
Donc il y a cette caisse, et comment est-elle utilisée, avec, vous l'avez évoqué, la prise en compte des revenus des personnes, des différences de revenus. Comment cette différence de revenus, bon, chacun peut comprendre ce dont il s'agit, se traduit ensuite, c'est-à-dire il y a un apport de la caisse plus fort selon les revenus de ces personnes. Le principe, c'est à peu près celui-là.
Oui, c'est à peu près celui-là. Le comité citoyen a travaillé pendant plusieurs séances sur comment déterminer son montant de cotisation. L'idée, c'est de cotiser une fois par mois une certaine somme en fonction de ses moyens pour avoir l'équivalent de 100 euros à dépenser dans une filière durable. Le montant de cotisation est déterminé par les personnes sans devoir apporter de justificatif aucun. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de justifier en apportant une fiche d'impôt, un coefficient CAF. On voulait justement sortir de ce qui est plutôt fait dans le secteur de l'aide alimentaire. Le comité citoyen, par contre, propose un guide, parce qu'il est toujours difficile de définir à quel point on est riche ou moins riche, propose un guide pour aider à déterminer son montant de cotisation, qui se base du coup sur le revenu.
Et il varie de combien à combien, grosso modo, cette cotisation, c'est-à-dire contribution volontaire pour disposer ensuite d'un pécule, d'une somme de 100 euros là.
La cotisation est... Donc l'idée, c'est que chacun puisse contribuer. Donc la cotisation est au minimum de 1 euro. Et puis après, elle va de tranche de 5 en 5, puis de 10 en 10,
d'accord,
jusqu'à 100. Donc ça peut être 1 euro, 20 euros, 30 euros, d'accord, 70 euros, 110, 150, 160, 200, pour avoir l'équivalent de 100 euros. On peut aussi, juste pour finir sur comment déterminer son montant, le déterminer en cédant de son revenu, mais aussi du budget disponible, donc c'est ce qui nous reste en fait à la fin du mois, une fois que les dépenses incompressibles...
Oui, ce qu'on appelle le reste à vivre. Oui.
Voilà, c'est une autre façon d'appeler le reste à vivre. Et enfin aussi le budget alimentaire chez soi, donc hors restauration collective, restauration extérieure, c'est le budget qu'on alloue à son alimentation, avec en données par exemple centrales. Je crois qu'en France, c'est à peu près 211 euros par mois qui est alloué à par personne qui est alloué à l'alimentation chez soi.
D'accord. Alors, les commerces, donc, qui sont déjà dans le dispositif, là, on ne va peut-être pas les citer, mais quels sont-ils et comment sont-ils agréés ? Bon, là aussi, quelle est la méthode que vous avez imaginer, mise au point et peut-être fait évoluer là, pour que cette offre-là de commerce soit conforme aux objectifs qui sont les vôtres.
Alors les premiers commerces C'est des commerces qui sont partie prenante du projet, qui sont dans les 27 structures de territoire à vivre. Et donc, elles ont été proposées et validées par le comité citoyen pour être les premières à pouvoir participer à l'expérimentation. Le comité citoyen là, est en train de travailler justement sur une méthode de conventionnement des nouveaux points de vente, et c'est-à-dire quels critères regarder pour pouvoir proposer à un point de vente de rejoindre l'alimentation. Donc il y a des critères de durabilité, d'accessibilité pratique et économique. Il y a différents critères à regarder. C'était le sujet du dernier comité citoyen. Ça va encore l'être parce que c'est loin d'être évident. Et donc pour pouvoir offrir proposer une offre la plus diversifiée en termes de produits, en termes de qualité de produits et aussi de répartition géographique, oui, sur la ville de Montpellier.
Dans les différents quartiers, bien entendu, parce que s'il faut traverser la ville pour bénéficier du système, bien sûr, c'est contraire aux objectifs de cette démarche. D'accord. Donc là aussi, il y a un travail, on le voit bien, là, de mise au point, de recherche, peut-être de tâtonnement, pour trouver donc le dispositif, la diversité des offres et la qualité des offres qui correspondent aux objectifs premiers que la question alimentaire porte en elle. D'accord. Alors, on a évoqué, hein, donc, y a le collectif, vous l'avez dit, Territoire Vivre, je le répète, Vivre au pluriel, qui rassemble une vingtaine de partenaires de tous ordres, des associations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des groupements de paysans. Bon, on ne va pas les citer, mais on voit l'idée. Et dans cette démarche-là, donc, le collectif a fédéré, il y a deux entités qui ont joué un rôle déterminant, qui ont été un peu le facteur déclenchant. C'est les CIVAM, donc c'est dans l'univers, disons, des organisations agricoles, des groupements d'acteurs de l'éducation populaire en faveur d'une agriculture et d'une alimentation durable. Et puis, par ailleurs, une association VRAC et Cocinas, comme en espagnol, qui est un peu le versant plutôt côté consommateur, qui ont, je dirais, inspiré les bases sur lesquelles la démarche s'est installée. C'est bien ça, là, cette confluence, je dirais, à la fois de gens qui ont un recul sur ces phénomènes et de gens qui sont, comme on dit, sans cesse sur le terrain.
Oui, mais il y a quelques années, voilà, sur l'agrégat des 27 structures qui constituent le collectif Territoire à Vivre, c'est le CIVAM et Evrac et Cocinas qui sont les deux structures porteuses de ce programme.
D'accord. Alors, autre élément important de la caisse, la monnaie locale, elle s'appelle la MONA, monnaie alimentaire, si vous voulez. Alors, d'abord, pourquoi ? Alors, il y a d'autres expériences ici et ailleurs, hein, de monnaie locale. Alors, pourquoi une monnaie locale ? En quoi ce dispositif vient compléter, renforcer et caractériser la caisse alimentaire ?
Donc pourquoi une monnaie, la MONA ? Pour pouvoir tester nos hypothèses, il a fallu qu'on se dote d'un outil pour pouvoir aller dépenser ces équivalents de 100 euros par mois dans les commerces choisis. La MONA, c'est une monnaie numérique sur le modèle des monnaies locales. Qu'on transforme, on cotise en euros pour obtenir 100 MONA par mois. Et ensuite, on les dépense dans les commerces et les commerçants peuvent les reconvertir. 1 euro égale une MONA. Il existe déjà une monnaie locale et complémentaire sur Montpellier qui s'appelle la graine. On travaille en fait avec la graine puisque la graine a grandement participé à l'élaboration de cette MONA.
Oui, parce qu'ils avaient un acquis, une expérience,
voilà,
sur les difficultés que ça présente, ou en tout cas sur la manière dont on peut réunir les conditions de la réussite.
Voilà, oui, on ne crée pas une monnaie n'importe quoi, donc n'importe comment. Donc il faut avoir des compétences en termes de gestion de flux, d'autorisation, de vente à distance, etc. Donc avec la graine, on travaille à tout ça. Et il y a tout un lien et des réflexions qui sont autour de les interactions entre monnaie locale et système de protection sociale pour l'alimentation.
Alors là aussi, bon, comment ça se passe ? Alors, est-ce que vous en êtes en phase, je dirais, d'élaboration du système, de mise en place du système, ou est-ce qu'il est déjà en place là, bon.
Alors, la MONAD est déjà en place depuis mi-février, et donc depuis pendant deux mois, c'est les fameux 47 du comité citoyen qui ont pu tester cette MONAD avant qu'on fasse notre premier appel à participation. Où là les gens sont en train d'être accueillis par le comité citoyen et déjà les premiers peuvent avoir accès à la MONA et dépenser dans les quatre premiers lieux qui sont la Cagette, l'Esperluette à Celle-Neuve, le marché paysan des Aubes et le groupement d'achat Vrac et Cocinas.
D'accord, donc qui donne à la fois des voies d'accès, une implantation géographique différente pour engager ce système. Quoi. Donc ça veut dire que les membres du comité citoyen échangent, je dirais, leur euro contre la monnaie. Voilà, pour que ça soit à peu près clair, comment ça se passe.
Donc concrètement, les personnes s'inscrivent, au terme de la réunion d'accueil, les personnes s'inscrivent, s'enregistrent tout simplement au site, à l'application de la MONA. Ensuite, elles ont un espace dédié qu'elles peuvent avoir accès sur leur téléphone ordinateur ou si elles ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, elles peuvent aller sur place dans ce qu'on appelle des comptoirs. Il y a différents comptoirs MONA qui ont des permanences qui sont disponibles sur Montpellier. Là, elles peuvent donc cotiser en carte bleue, espèce ou chèque au montant qu'elles auront autodéterminé une fois accompagnées par les fameux repères dont on a parlé du comité citoyen. Et une fois cette cotisation payée, elles sont créditées de 100 MONA sur leur compte qu'elles pourront dépenser en se présentant dans les commerces en disant qu'elles font partie de la caisse alimentaire commune. Elles ont simplement à donner leur nom, prénom pour que les commerçants derrière avec une tablette ou un téléphone les cherchent.
Vérifient qu'elles sont, voilà.
Qu'elles sont voilà, dans la liste des personnes participantes. Et puis le commerçant ou la commerçante le tendra cette tablette avec, en fait, il y aura un pavé numérique comme un TPE. Et il y aura le code secret de paiement à taper pour pouvoir acheter ces aliments.
D'accord. Alors bon, c'est un petit peu plus compliqué comme ça, raconter ça rapidement au micro, mais bon, les personnes, encore une fois, qui sont intéressées pourront trouver des informations sur le site de la Caisse alimentaire. Alors, au sein du comité scientifique qui a été constitué, des chercheurs du CIRA, de l'INRAE, de Supagro et de l'Université de Montpellier sont actifs dans la démarche. Là aussi, vous l'avez évoqué, pourquoi cette rigueur scientifique qui apporte sa part à la fois dans l'élaboration et la mise en œuvre de la caisse.
Mais qui dit expérimentation dit du coup regard scientifique. Et l'idée, c'est que ces chercheurs travaillent sur différents plans. Ils veulent regarder en fait sur un dispositif de démocratie alimentaire tel que la caisse alimentaire commune. Dans quelle mesure il va modifier, changer les pratiques alimentaires des personnes. Donc à l'entrée de la caisse et à la fin de l'expérimentation, il y a un petit questionnaire à remplir. Il peut y avoir aussi un entretien non obligatoire, mais plus long, plus qualitatif avec ces chercheurs pour voir en quoi ce dispositif peut changer les pratiques.
Il y a aussi pratiques, je dirais, dans les modes de consommation, dans le choix des produits, dans le budget alloué à tel ou tel produit, ça peut être ça.
Voilà, c'est tout ça, c'est les pratiques alimentaires, c'est voilà, vers quel type de produit on va se tourner, quel budget on alloue, qu'est-ce que ça change dans le budget du foyer, ce dispositif. Et puis est-ce qu'on priorise d'autres endroits par rapport à d'autres? Quel temps on prend à cela? Parce que notre temps en rapport à l'alimentation a été considérablement raccourci ces dernières années. C'est tout ça sur...
D'accord. Dans un travail de recherche qui va aboutir dans plusieurs mois, j'imagine, pas tout de suite, le temps que la caisse vive sa vie, je suppose. Fin 2023 ou 2024, les premières études, parce que pouvez-nous dire?
Ah oui, ouais, moi je suis pas dans le domaine de la recherche, mais toujours, toujours tendance à dire que les chercheurs, il y a toujours un laps de temps, un temps de retard sur ce qui s'est passé, parce qu'il faut pouvoir avoir du recul, l'analyser, et du coup les productions et les résultats arriveront plus tard.
Laissons la recherche avancer à son pas.
C'est ça.
Alors, dernière question, toute simple. Bon, 3 mois après le lancement, mais après aussi de longs mois de réflexion collective et de préparation, les premiers effets de l'expérimentation, on en a parlé, ça commence à apparaître. Est-ce que vous, bon, et les gens, nombreuses personnes associées à cette opération, ceux qui les accompagnent comme vous et le comité citoyen, quelle est la température? Plutôt optimiste ou plutôt encore mobilisé, parce qu'il y a bien sûr des réglages, des difficultés qui peuvent se présenter? Quelle est la température là, à la caisse?
Les retours sont plutôt positifs. Hein. Si la caisse devait s'arrêter là, en fait, il y a déjà des résultats probants qui sont là. Rien que le fait qu'un comité citoyen puisse se regrouper une fois par mois et soit intéressé, vienne en nombre pour discuter de ces sujets, il y a déjà une réappropriation citoyenne de l'objet alimentation qui est certaine. Ensuite, sur le côté plus opérationnel, sur la dépense effective de ces fameuses MONA pour avoir accès à des aliments durables, il y a déjà le crash test qui a été fait par les 50 du comité citoyen. Ça tend à augmenter depuis ces derniers jours. Donc là, on est à pied d'œuvre pour démultiplier les points de vente et pour voir comment ça continue à prendre sur la ville de Montpellier. Donc plutôt plein d'énergie et positif.
C'est en tout cas ce qu'on vous souhaite. Donc bon vent à la caisse alimentaire commune et à une prochaine fois.
Merci.
Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.